Alors, c'est aussi un film avec le sexisme qu'on retrouve qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le Mécano de la Générale, mais avec un personnage féminin assez intéressant parce qu'elle est courageuse. C'est l'époque, ça parle encore, parce qu'il n'y a peut-être pas qu'à l'époque, mais il faut demander au père, évidemment, pour le mariage. Donc, l'homme va demander au père pour le mariage. Donc, on voit l'évolution historique aussi des rapports sociaux, même si vous avez vu que c'est elle qui l'embrasse, hein. Ça me fait tomber. Il y a évidemment la lutte contre le sexisme de Calamity. Et le sexisme le plus fort, c'est dans ce film-là, parce qu'il est, il n'est pas caché, en fait. Il est dit noir sur blanc, on y insiste. C'est le cri du grand-père dès la naissance de la petite fille. Hein, donc c'est à la naissance même, c'est vraiment déterminé par son sexe. C'est le fait de dire cramponnez-vous à vos queues. C'est la question du toucher, parce que vous rappelez que quand Paille va essayer d'approcher la baleine, il l'empêche, donc il y a une idée d'impureté, il ne veut pas qu'elle touche la baleine, donc elle est impure parce que elle veut un destin plus grand qu'elle et surtout elle veut un destin de chef de la communauté. Et c'est aussi la capacité du sexisme à empêcher la solidarité, c'est-à-dire que le grand-père est particulièrement violent avec Amy, il l'empêche d'aller faire la dernière tentative. La dernière étape pour trouver l'élu de la communauté. Et c'est une manière qu'a le sexisme hein, à côté de la biologie, c'est-à-dire de dire les choses sont différentes si vous avez une queue entre les jambes. Une autre manière, c'est d'empêcher la solidarité. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que là, cette solidarité, elle existe entre les gens de même âge, les deux enfants, et que lui, il empêche Amy, il empêche Amy de monter. Et ce statisme du personnage, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer, mais en fait, cette séquence a lieu jusqu'après que Pai soit prostré dans la baignoire. Donc on a vraiment cette idée que le sexisme, c'est aussi empêcher la solidarité entre les personnages. Donc j'insiste, je veux tous les premiers-nés mâles. Depuis qu'elle est née, tout va de travers pour nous. Là est la réponse. Donc il n'y a pas de... C'est assez fort. Dans le film pour pouvoir être défié. Puisque l'idée, c'est de défier Corot, finalement, c'est-à-dire le grand-père. Alors, il faut le défier en face à face sur la terre, c'est-à-dire répéter le chant des ancêtres, même si, soi-disant, la voix féminine ne peut pas le faire. Prendre la tête des initiés. Vous vous rappelez, c'est le moment du film où la grand-mère attend qu'elle arrive et lui demande de prendre la tête des initiés et que Paille refuse de changer de place sur les bancs. Et alors pour vous dire, voilà, c'est le petit extrait que je voulais vous montrer pour vous dire à quel point c'est agréable comment c'est écrit. Dans le livre, en fait, c'est une histoire vraie dans la famille, puisque c'est toujours autobiographique, hein, sa saga. J'aimais particulièrement l'histoire de Mihi Kotukutuku, qui était la mère de Taeroera. Taeroera, c'est la grand-mère. Une cousine de... Ah non, pardon, c'est Nani, la grand-mère. Une cousine de Nani, et nous adorions écouter les exploits. Ses exploits. C'était une grande chef de Zefe, descendante d'Apuani, qui avait donné son nom à la tribu de la grand-mère. L'histoire que nous préférions était celle de la fois où Mihi était restée debout dans un maharé. Assieds-toi, lui avait crié son père furieux. Il y tenait car les femmes n'étaient pas censées être debout et prendre la parole en terre sacrée. Mais Mihi lui avait répondu: Non, c'est toi qui t'assieds. Je suis d'un rang plus élevé et d'un âge plus ancien que le tien. Et ce n'était pas tout. Mihi lui avait tourné le dos, s'était baissé, avait soulevé ses jupons et lui avait dit: Tiens, voici l'endroit d'où vous venez tous, sa façon à elle de rappeler au chef que tous les hommes naissent d'une femme. Et je vous dis, il va très loin, l'auteur. Donc vous voyez que des fois, ce qui est normal dans le travail d'adaptation, elle prend des choses qui appartiennent à plusieurs féminins, personnages féminins du film. Et elles le font sur ce personnage un peu frêle, d'apparence un peu frêle, mais qui du coup va un peu accumuler les exploits. Donc, face à face sur la terre avec Corot, répéter le chant des ancêtres, prendre la tête des initiés à l'intérieur du lieu sacré, s'asseoir au premier rang, grâce à sa grand-mère, manier le bâton de combat et de pouvoir du Taïa, et danser surtout la chorégraphie du Haka, bien sûr. Ça passe aussi sur la relève en mer, quand elle dit il est fatigué. Dans le film, c'est une très belle image. On va voir le moment où il est épuisé, physiquement épuisé, de ne pas pouvoir trouver à qui transmettre la tradition. Et c'est très intéressant de voir les deux montages parallèles de recherche de la dent de baleine, parce que autant les petits garçons ont eu du mal et se sont battus sous l'eau, elle, c'est filmé comme une comédie. C'est-à-dire qu'il y a une manière aussi de rendre ses exploits de manière presque surnaturelle, sur terre comme sur l'eau, ça va très rapidement parce qu'elle a une actrice assez jeune finalement et assez frêle, mais ça lui permet de faire ses exploits. Et dans le livre, c'est pour ça que je vous racontais l'histoire de la grande tante dont il est question, c'est en fait des références historiques. Donc il y a toujours eu des femmes qui ont lutté à chaque période pour contester le patriarcat en tout lieu. Donc je voulais vous revenir un peu sur le petit extrait, sur cette idée du montage parallèle entre ce que j'ai appelé la vieillesse de Paca et la relève de Paille. Donc Paikea, du nom des ancêtres,